Chapitre 6 20 juin 2202 Je suis à nouveau enceinte, ce qui enthousiasme bien plus Michael que mon mari. Richard m'a avoué en privé que ses sentiments sont mitigés. Quand je lui ai rappelé qu'il m'avait donné son accord 2 mois plus tôt, il m'a rétorqué que ma surexcitation avait dû le contaminer. Le bébé naîtra en mars. Nous aurons alors terminé d'aménager la chambre d'enfant et nous disposerons d'assez de place pour toute la famille. Je suis désolée que Richard ne soit pas ravi d'être à nouveau père, mais heureuse à la pensée que Simone aura un compagnon de jeu. 15 mars 2203 Catherine Colleen Wakefield, Cathy, est née le 13 mars à 6h16. J'ai accouché sans problème, seulement 4 heures après la première contraction. J'ai mis l'enfant au monde en position accroupie et ma forme était telle que j'ai coupé moi-même le cordon ombilical. Geneviève et Simone étaient des bébés paisibles, alors que Cathy pleure sans cesse. J'ai insisté pour lui donner le nom de sa grand-mère paternelle, dans l'espoir que cela inciterait Richard à s'intéresser à son rôle de père, mais il est trop occupé par la compilation d'une base de données parfaite pour prêter attention à sa fille. À sa naissance, Cathy pesait près de 4 kilos et mesurait 54 centimètres. Simone devait être plus menue, mais nous ne disposions à l'époque d'aucune balance précise. Cathy a un teint très pâle et des cheveux bien plus clairs que sa sœur. Il n'est pas rare que les yeux d'un nouveau-né s'assombrissent par la suite, mais je n'aurais jamais pensé avoir un jour un enfant aux yeux bleus. 18 mai 2203 Je ne peux croire que Cathy a plus de 2 mois, tant elle est pénible. Elle tire toujours sur mes mamelons lorsqu'elle se nourrit, et dès que je tourne la tête pour m'adresser à Michael ou à Richard, et surtout à Simone, elle se déchaîne sur mon sein comme par jalousie. Richard est morose. Il lui arrive de redevenir spirituel et de nous faire rire, mais son humeur est changeante. La moindre remarque peut le plonger dans la tristesse, voire la colère. Je pense qu'il s'ennuie. Il a mené à terme son projet et ne s'est pas encore fixé d'autre but. Son super ordinateur simplifie considérablement l'utilisation du système informatique des Raméens. Mon mari pourrait apporter un peu de diversité à son existence en jouant un rôle plus actif dans l'éducation et l'éveil de Simone, mais ce n'est pas dans son tempérament. Au début de ma dernière grossesse, son manque évident d'intérêt m'inquiétait, et je lui ai demandé de créer un laboratoire où nous pourrions analyser le génome de Cathy à partir d'un échantillon de fluide amniotique. Il faudrait pour cela établir avec les Raméens des contacts plus étroits et créer et calibrer des instruments médicaux de précision. Richard était ravi de relever ce défi. Moi également, car cela me rappelait l'époque où je fréquentais la faculté de médecine. Michael veillait sur Simone alors que nous travaillions ensemble pendant 12 heures d'affilée, quand ce n'était pas 14. Le soir venu, nous parlions de nos travaux, même en faisant l'amour. Mais je finis par découvrir qu'il s'intéressait plus aux performances du matériel qu'au génome de notre deuxième enfant. Quand je lui annonçais que c'était une fille, qu'elle n'avait pas les syndromes de Down ou de Whittingham et que sa vulnérabilité au cancer serait normale, il réagit avec indifférence. Lorsque je le félicitais pour la rapidité et la précision des analyses dues à ses appareils, il sourit de fierté. Mon mari s'intéresse plus aux mathématiques et à la technologie qu'à sa progéniture. Conscient de sa tension, Michael lui a suggéré de fabriquer de nouveaux jouets pour Simone, comme ces magnifiques poupées qui se promènent seules et obéissent à une douzaine d'ordres verbaux. Un soir où il était d'humeur joyeuse, Richard a programmé B afin qu'il s'intéresse à ses contreparties féminines. Simone a été secouée par des rires quasi hystériques en voyant le barde bloquer les trois poupées dans un angle de la pièce pour leur débiter des sonnets galants. Même B ne peut tirer Richard de sa morosité. Mon mari a un sommeil agité et se désintéresse de tout, y compris du sexe. Il lui faut affronter ses démons intérieurs. Il y a 3 jours, il nous a quittés tôt dans la matinée et a passé plus de 10 heures dans New York. Quand je l'ai interrogé sur ses activités, il m'a répondu qu'il était resté assis sur le mur d'enceinte, plongé dans la contemplation de la mer cylindrique. Les deux hommes sont convaincus que nous sommes seuls sur cette île. Richard a visité à 2 reprises le nid des aviens et est descendu jusqu'au point où j'avais franchi d'un bond le puits vertical, du côté opposé de la corniche, où le char sentinelle est de faction. Il n'a relevé aucun signe de vie. Quant à l'antre des octopodes, il est fermé par 2 grilles installées entre la trappe et le premier palier. Richard surveille à nouveau les lieux et affirme que nul n'est entré ou sorti depuis longtemps. Les hommes ont assemblé le voilier, puis l'ont testé sur la mer cylindrique pendant que Simone et moi les attendions sur le rivage. De crainte que des crabes biotes n'assimilent cette embarcation à un détritus, l'autre bateau n'a-t-il pas disparu? Ils l'ont ensuite redémonté et remisé en sûreté dans notre refuge. Richard ne cesse de répéter qu'il aimerait prendre la mer et aller voir s'il n'existe pas un point de la falaise du sud qu'il pourrait gravir. Nous disposons de très peu d'informations sur l'hémicylindre austral, les rares souvenirs récoltés pendant la chasse aux biotes organisée avec le reste de l'expédition Newton et les images prises par les sondes automatiques. Explorer cette région et chercher le lieu où se sont regroupés les octopodes serait fascinant, mais prendre de tels risques relèverait de la folie. La disparition d'un seul d'entre nous serait catastrophique. Cette existence semble satisfaire Michael O'Toole, surtout depuis que l'ordinateur de Richard nous donne accès à de nombreux fichiers. Nous pouvons par exemple consulter l'encyclopédie du module militaire de l'expédition Newton, et Michael s'est découvert une passion pour l'histoire de l'art. Le mois dernier, il nous parlait des Médicis, des papes catholiques de la Renaissance et des grands artistes de l'époque tels que Michel-Ange et Raphaël. Il se passionne à présent pour le 19e siècle, une période qui a pour moi plus d'intérêt. Nous avons eu de nombreuses discussions sur la révolution impressionniste, mais il refuse d'admettre que ce mouvement pourrait découler de l'invention de la photographie. Michael passe des heures auprès de Simone et lui prodigue des trésors de patience et de tendresse. Il suit son développement et a ouvert un fichier dans lequel il note tous les événements importants de son existence. Elle connaît 21 lettres de l'alphabet et lorsqu'elle est en forme, elle compte jusqu'à 20. Elle sait identifier les dessins d'un avien, d'un octopode et des 4 principaux modèles de biotes. Elle connaît en outre les noms des 12 apôtres, ce qui a le don d'exaspérer mon époux. Nous avons tenu une conférence au sommet sur l'éducation religieuse des filles, sans trouver pour autant un terrain d'entente. Quant à mon existence, je ne m'en plains pas, même si les sautes d'humeur de Richard, les pleurs de Cathy et l'absurdité de notre situation mettent mes nerfs à rude épreuve. Je ne reste jamais inactive. Et si je m'interroge sur la destination de Rama, mon ignorance a cessé de m'irriter. Les hommes se désintéressent de ce qui constitue un élément essentiel de ma vie. La maîtrise des langues étrangères a toujours été pour moi un sujet de fierté, et j'ai fait, il y a quelques semaines, un songe angoissant. Je ne savais plus écrire et parler que l'anglais. Je passe depuis 2 heures par jour à réviser le français et à étudier l'italien et le japonais. Un après-midi du mois dernier, Richard a projeté sur le grand écran une image du télescope externe. Notre soleil était la plus brillante des étoiles, mais de peu. Cela nous a rappelé que nous étions déjà à plus de 12 billions de kilomètres de la planète océanique en orbite autour de cet astre devenu insignifiant. Plus tard, le même soir, nous avons regardé un des films de la vidéothèque du module Newton. Aliénor, une adaptation d'un best-seller de mon père, tourné dans des lieux que j'ai visités avec lui pendant mon adolescence. Les dernières scènes de la vie de la reine se déroulent à l'abbaye de Fontevraud, et je me suis revu dans ce monastère à l'âge de 14 ans, debout à côté de mon père, devant l'effigie de mon héroïne, la gorge serrée par l'émotion. Je m'étais alors adressé à l'esprit de cette femme qui avait modifié le cours de l'histoire de la France et de l'Angleterre au XIIe siècle.
Vous avez été une reine admirable, et vous êtes mon exemple. Je ne vous décevrai pas.
Cette nuit-là, alors que Richard dormait et que Cathy restait pour une fois silencieuse, je pensais à cet épisode de mon existence et fus assailli par un profond chagrin. La juxtaposition du soleil lointain à ce souvenir d'une enfant qui faisait une promesse téméraire à une reine défunte près d'un millénaire plus tôt me rappelait que tout ce que j'avais vécu avant mon arrivée dans Rama appartenait à un passé révolu. Mes deux filles cadettes ne verront jamais ces lieux qui comptent tant pour moi et pour Geneviève. Elles ne connaîtront pas la fragrance de l'herbe printanière fraîchement coupée, la beauté des fleurs, le chant des oiseaux et la magnificence de la pleine lune qui monte de l'océan. Elles n'auront un vague aperçu de leurs racines que par l'entremise des trois individus qu'elles appelleront leur famille, un échantillonnage ô combien réduit de la vie qui grouille sur une planète bénie. J'ai pleuré, consciente qu'au matin, j'aurais retrouvé le sourire. Après tout, notre situation pourrait être pire. Au moins, avons-nous de la nourriture et de l'eau, un abri et des vêtements, une santé excellente et surtout, de l'amour, l'ingrédient le plus important du bonheur, tant sur Terre que dans Rama. Même si Simone et Cathy ne connaissent que cela du monde que nous avons laissé derrière nous, je m'estimerai satisfaite.